Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et on débute avec les grands titres de l'actualité donc pour aujourd'hui, pour ce 10 décembre. Explosion d'un volcan en Nouvelle-Zélande. Le bilan est toujours incertain. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des victimes australiennes. On fera le point dans ce journal. Les incendies qui continuent en Australie. Ce matin, on dénombre encore 140 foyers actifs. Et la Russie bannie de toute compétition sportive pour 4 ans. Les instances russes sont accusées d'avoir masqué des résultats en grand volume. On débute donc ce journal avec l'éruption d'un volcan en Nouvelle-Zélande. D'après le Premier ministre australien Scott Morrison, 5 personnes seraient de nationalité australienne, 5 des victimes. D'après les autorités néo-zélandaises, 47 personnes étaient sur l'île, l'île Blanche. C'était au moment donc de l'explosion. Elles étaient séparées en 2 groupes. 5 personnes ont donc été confirmées mortes et 31 autres blessées. 8 sont toujours disparues. On écoute le Premier ministre Scott Morrison. Donc, d'après lui, 13 des 24 présents sur l'île au moment de l'éruption sont à l'hôpital.
With 11 Australians unaccounted for, 3 of those feared to be amongst the 5 that have already been identified as deceased. This is a very, very hard day for a lot of Australian families whose loved ones have been caught up in this terrible, terrible tragedy.
Voilà, donc le Premier ministre australien Scott Morrison. La Première ministre néo-zélandaise Jacinta Ardern a confirmé que les touristes venaient des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, de Chine, de Malaisie et encore donc d'Australie. Des vols de reconnaissance aérienne ont été effectués au-dessus du volcan depuis l'éruption, mais il n'y a aucun signe de vie qui a été trouvé. Elle a salué d'ailleurs la bravoure des pilotes d'hélicoptères qui ont été impliqués dans l'évacuation de l'île. On l'écoute.
They were able to pick up, to bring back to the mainland those who were on the island, many of which obviously are critically ill. Those individuals have then been located across New Zealand in burns units across the country. And so that accounts for the 31 that we've said are in hospital at this time.
Voilà, donc Jacinta Ardern, la première ministre australienne. En Australie, il y a des feux de forêt, on le sait, ça continue à travers tout le pays. Ce matin, on dénombrait près de 140 foyers toujours actifs, on le sait. Sydney est recouvert d'un nuage de fumée depuis plusieurs jours. Canberra était également touchée hier. On écoute le commentaire d'un Français installé là-bas. Il s'appelle Thomas Lefebvre. Il nous décrit comment le nuage s'est formé.
L'air est épais de fumée, si vous voulez. Là où j'habite, je suis dans les hauteurs au-dessus de la ville et je peux voir les lueurs des bâtiments, des buildings qui sont plus bas, mais ces lueurs sont filtrées par la fumée. C'est littéralement de la fumée. On sent dans l'air l'odeur du feu d'eucalyptus. Depuis, 4 ou 5 heures de l'après-midi, la fumée est plus épaisse que ce qu'elle ne l'était ce matin. La radio locale fait passer des annonces pour dire « attention, ne sortez pas de chez vous si ça n'est pas nécessaire ». J'ai mon fils Thibault qui a 11 ans qui fait de l'asthme, donc on a obligé de faire attention de le maintenir à l'intérieur le plus possible. Ce qui est difficile parce qu'il fait chaud, je crois qu'on nous annonce 36-38 à peu près.
Voilà, donc vous l'avez entendu, il s'appelait Thomas Lefebvre, il est résident français à Canberra. Les autorités ont donc demandé aux gens de rester à l'intérieur. Les températures, on vient de le voir, devraient monter au-dessus des 40 degrés à travers la Nouvelle-Galles du Sud ou encore dans l'ACT. Ces pics de chaleur devraient d'ailleurs aggraver les conditions des feux de brousse, détériorant ainsi la qualité de l'air, comme l'explique le docteur Richard Broome du ministère de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud. Pour lui, la chaleur extrême combinée à une fumée accrue donc peut entraîner des risques supplémentaires pour la santé. On l'écoute.
So it's really important for people who have chronic conditions such as heart and lung disease, but also other diseases like kidney problems or diabetes, those people need to be cautious in the very hot weather. So when it is really hot, the most important thing to do is try and keep out of the heat. So staying indoors and turning your air conditioner to recycle helps to keep you cool, but also helps to keep your house free of the smoke.
Direction de la sport maintenant et la Russie qui est bannie de toute compétition sportive pour les 4 prochaines années après que l'Agence mondiale de lutte contre le dopage ait trouvé des preuves de falsification de tests. La Russie sera donc absente des Jeux de Tokyo, donc pour les Jeux Olympiques, absente du Qatar pour la Coupe du Monde ou de Pékin encore pour les Jeux d'hiver de 2022. Les athlètes propres pourront peut-être participer sous la bannière olympique ou une bannière neutre. Les explications depuis Genève avec Jérémy Lanche.
C'est la sanction la plus lourde jamais infligée par l'Agence mondiale antidopage. Elle est à la hauteur de la fraude commise par la Russie. En manipulant les données de ses sportifs contrôlés pour mieux les couvrir, Moscou s'est définitivement mise à dos les instances du sport international. Jonathan Taylor est le président du comité d'examen de la conformité de l'Agence mondiale antidopage.
C'est une sanction valable pour 4 ans. La Russie ne pourra pas accueillir de compétition internationale ni demander à en organiser de nouvelles. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de compétition en Russie bien au-delà des 4 prochaines années. En ce qui concerne la participation, la sanction est claire. Il n'y aura pas de drapeau russe lors des championnats du monde et les sportifs qui participeront ne pourront pas le faire sous les couleurs de la Russie. Il va falloir regarder pour chaque sport et chaque compétition en détail. Cela se fera au cas par cas. Mais l'important, c'est de noter que l'Agence mondiale antidopage va s'assurer que les sanctions vont bien être appliquées. Est-ce qu'on peut répondre pour chaque sport ? Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de sportifs représentant la Russie dans ces compétitions lors des 4 prochaines années. Non,
mais le standard est clair. Ils ne seront pas là. As representatives of Russia.
145 athlètes russes particulièrement suspects aux yeux de l'agence ne pourront participer à rien, même avec un maillot neutre. Leurs noms n'ont pas été dévoilés. La Russie peut encore faire appel devant le tribunal arbitral du sport, mais elle échappe en fait au pire. Les championnats européens ne sont pas concernés par les sanctions. La Russie sera donc bien présente à l'Euro de football 2020.
Et c'était Jérémy Lange pour RFI depuis Lausanne. 13h07. Coup de tonnerre aux États-Unis, des révélations du Washington Post sur la guerre en Afghanistan. Le journal a recueilli près de 600 témoignages sur le rôle des États-Unis dans la région à travers les années donc, où la guerre était présente. On y découvre 18 ans de tâtonnements, d'hésitations et surtout que les présidents George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump auraient menti à l'opinion publique. Les explications avec Philippe Golubet. Il est professeur de politique américaine à l'Université de la Sorbonne à Paris.
Le mensonge est concentré autour de l'idée que les États-Unis, après 19 ans d'intervention, 1 000 milliards de dollars de dépenses, 2 400 morts côté américain, des dizaines de milliers de morts côté afghan, que les États-Unis ont réussi en partie du moins dans leur effort guerrier, dans leur effort de construction d'un nouvel État dans une nouvelle société afghane. Sans qu'aucune de ces affirmations était étayée sur le terrain, tout à fait au contraire, sur le terrain, que ce soit les acteurs du développement ou les acteurs militaires spécialisés, savaient que les discours officiels ne correspondaient aucunement à la réalité. Évidemment, certains, sans doute, les chercheurs le savaient, les différentes agences gouvernementales internationales et l'ONU étaient parfaitement au courant aussi, mais la population américaine ne l'était pas vraiment, et ça va contribuer, me semble-t-il, à accentuer la tendance déjà profonde au sein de la population américaine de vouloir, d'exiger un retrait des États-Unis des zones de conflit en Asie centrale, au Moyen-Orient, dans le Golfe, ces interventions qui n'aboutissent pas et qui, au lieu de manifester la puissance, la détermination de la démocratie américaine, font exactement le contraire.
Voilà, donc c'était Philippe Golubet, professeur de politique américaine à l'Université de la Sorbonne à Paris. Aux États-Unis d'ailleurs, toujours, les démocrates de la Chambre des représentants sont en train de rédiger les articles sur l'impeachment, comme on dit en anglais, contre Donald Trump, le comité judiciaire pouvant potentiellement voter cette semaine. L'enquête sur la destitution qui menace donc le président Donald Trump se concentre sur sa demande à l'Ukraine d'enquêter sur l'ancien vice-président Joe Biden, l'un des principaux candidats à l'investiture démocrate, qui devrait donc lui faire face lors des élections de novembre 2020. Le président du comité judiciaire, Gerald Nadler, a déclaré que l'audience se déroulerait de manière ordonnée et que son comité ne se prononcerait sur aucune des charges retenues contre Donald Trump qu'après une audition pour examiner les preuves recueillies. On l'écoute.
The hearing will be considered in an orderly fashion. The gentleman will not yell out and he will not attempt to disrupt the proceedings. We will now hear presentations of evidence from counsel to the Judiciary Committee for up to 60 minutes, equally divided.
13h10, vous écoutez le journal en français sur Radio SBS. Direction l'Irak et la contestation contre le pouvoir qui continue, même si elles sont réprimées dans la violence. Le bilan s'élève aujourd'hui à 450 morts et plus de 20 000 blessés depuis le début. Donc, en outre, on a appris qu'un militant actif au sein du mouvement a été assassiné, tout simplement, hier à Karbala, par des hommes armés non identifiés. Et c'est pas le premier, comme nous l'explique Muriel Paradon.
Fahem Altay a été assassiné dimanche soir devant son domicile à Karbala, selon l'agence France Presse. Il rentrait chez lui lorsque des hommes à moto lui ont tiré dessus, presque à bout portant. Fahem Altay, 53 ans, était apparemment actif au sein des manifestations contre le pouvoir en Irak. Il avait subi une campagne d'intimidation sur les réseaux sociaux, mais continuait à se mobiliser. D'autres militants ont été retrouvés morts sans que leur assassinat ne soit élucidé. C'est le cas de Zahra Ali, une étudiante de 19 ans, enlevée le 2 décembre à Bagdad, son corps sans vie et mutilé a été retrouvé le lendemain près de son domicile. Le meurtre sauvage de la jeune femme a marqué les esprits. Enfin, rappelons le massacre du week-end dernier, toujours à Bagdad. 24 manifestants qui occupaient un parking à plusieurs étages ont été tués par des hommes armés non identifiés. Certains militants accusent des milices pro-iraniennes d'être derrière cette attaque. Les autorités irakiennes, elles, affirment ne pas avoir d'informations sur cette série d'assassinats.
Et c'était Muriel Paradon pour RFI. L'Union européenne a lancé hier une sorte de Airbus de la batterie. La Commission européenne a approuvé un plan d'aide des États, donc de 7 pays européens, dont la France et l'Allemagne, pour positionner l'Europe en pointe sur le marché mondial des batteries. L'ambition étant de créer une filière d'excellence à l'heure où le marché mondial, eh bien, promet une explosion de la demande. Les explications avec Pierre Benazet.
Au total, les 7 pays de cette alliance européenne des batteries vont mettre sur la table 3 milliards 200 millions d'euros d'aide publique, avec pour objectif d'entraîner des investissements privés à hauteur de plus de 5 milliards d'euros. Ce projet s'inscrit d'abord dans l'ambition de relancer la politique industrielle européenne, mais il survient aussi à un moment particulièrement favorable, puisque le développement de ces nouvelles batteries européennes doit participer à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce double critère, en quelque sorte, a permis aux 7 pays d'obtenir en un temps record de 2 mois le feu vert de la Commission européenne, d'habitude très prudente pour les aides d'État. Dans la pratique, 17 entreprises seront concernées, dont des PME, avec déjà 70 partenaires extérieurs pressentis. Le but est de créer une filière complète qui ira de la sécurisation de l'approvisionnement en minerais jusqu'au recyclage final des batteries, en passant évidemment par la production avec une première usine pilote inaugurée en Charente dans les mois qui viennent. Faire de l'Europe la première puissance industrielle verte de demain, tel est l'objectif de cette alliance qui comportera un important volet de recherche et développement afin de fabriquer des batteries plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement.
13h13, cours d'œil météo à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 34 degrés. Adélaïde, 26. Melbourne, 19. Hobart, 21. On l'a vu, Canberra, il fera très chaud, 38 degrés. Sydney, 36 degrés également. Restez vraiment chez vous si vous avez un problème de respiratoire. Ça ne sert à rien d'être dehors. À Brisbane, il fera 32 degrés. Cairns, 31 degrés. Et Darwin, toujours très chaud à Darwin, 35 degrés. Et retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Explosion d'un volcan en Nouvelle-Zélande. Le bilan est toujours incertain. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des victimes australiennes. Les incendies qui continuent en Australie ce matin en dénombrent encore 140 foyers actifs. Et la Russie qui est bannie de toute compétition sportive pour 4 ans. Les instances russes sont accusées d'avoir masqué les résultats en grand volume. 13h14, on fait une courte pause et on retrouve Jean-Noël pour le sport dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.